Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque ?» Il envoie de ses disciples en leur disant « Allez à la ville. » Un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le, et là où il entrera, dites au propriétaire, « Le maître te fait dire, où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples ?» Il vous indiquera à l'étage une grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. Les disciples partirent, allèrent en ville, ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna et dit, « Prenez, ceci est mon corps. » Puis, ayant pris une coupe, ayant rendu grâce, il la leur donna. Et ils en burent tous. Et il leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance versé pour la multitude. Amen, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers.
Seigneur Jésus, tu es présent au milieu de nous et nous croyons que tu es vivant, que tu es ressuscité, toi qui aussi es assis à la droite du Père. Seigneur, étends ta main sur nous, souffle sur nous ton Saint-Esprit, que ta parole puisse éclairer nos cœurs et nos intelligences. Sans ton Saint-Esprit, nous ne pouvons pas accueillir ta parole. Chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui la fête du Saint-Sacrement, la fête Dieu, et c'est une fête qui nous invite à prendre davantage conscience du don inouï que le Christ nous fait quand il nous donne de pouvoir nous unir à lui en communion à son corps et à son sang. Et pour entrer dans le sens de cette fête, permettez-moi de commencer par un petit témoignage qui nous vient de Chine. Il s'agit d'un chrétien, frère Yun, qui a traversé beaucoup de souffrances parce qu'il allait de village en village évangéliser. Ça se passait au début des années 80 et des vagues de persécution s'abattaient sur les églises. Le frère Yun avait été arrêté, torturé, et en prison, il jeûnait pour avoir la force de résister à la demande de donner des noms, les noms des responsables des communautés de maisons qu'il avait fondées. Un jour, pour le fragiliser et le contraindre à parler, après l'avoir une nouvelle fois torturé, les gardiens ont invité sa mère et son épouse à venir le visiter en prison. Ses gardiens étaient à l'affût de ce qu'ils allaient se dire entre eux, espérant glaner des informations utiles pour leur enquête. Mais le prisonnier et la famille le savaient et ils échangeaient entre eux dans un langage codé. La première chose que le frère Yun a dit à sa famille quand il fut en sa présence, ce fut un reproche. Pourquoi ne m'avez-vous pas apporté à manger ? Les gardiens ne comprenaient pas ce reproche puisque frère Yun, qui jeûnait, leur paraissait faire une grève de la faim. Mais la famille avait compris. Le frère Yun avait faim du pain eucharistique. Il désirait plus que tout se nourrir du corps et du sang de Jésus, expérimenter la communion qui l'unit à sa famille lorsqu'ensemble ils obéissent au commandement de Jésus, prenez et mangez. ceci est mon corps, prenez et buvez, ceci est mon sang. Les souffrances du frère Youn, vécues à cause du Christ, avaient comme fruit la faim de Dieu, la faim de l'Eucharistie. Si Dieu se cache sous les apparences du pain et du vin, de manière à ce que nous ayons besoin de la lumière de la foi pour le voir et le rencontrer, c'est pour venir à la rencontre de notre faim et de notre soif de lui. Et de ce point de vue-là, les pauvres, les petits, les malades, les prisonniers sont privilégiés, parce qu'étant privés des richesses qui obstruent la source du désir de Dieu dès qu'on s'y attache, ils sont plus aptes à entendre cette faim qui les habite. Quand on s'attache à d'autres richesses qu'à Dieu, alors se crée en nous un vide, et les richesses dont nous pensions qu'elles allaient nous rassasier augmente ce vide en nous. Bien sûr, nous avons besoin de la santé, de la sécurité matérielle, de moments de détente, de relations, mais plus que tout, nous avons besoin de répondre au désir le plus profond de notre âme, le besoin de Dieu. Quand nous faisons passer d'autres désirs avant le désir de Dieu, et je vous le dis, nouveau catéchumène, je le dis particulièrement aux jeunes, quand on fait passer d'autres désirs avant le désir de Dieu, notre vie devient fade, elle devient terne, elle devient vide, quelles que soient les multiples distractions dont nous essayons de la remplir pour penser le contraire. Au dernier jour, il ne reste plus rien de ces distractions, si ce n'est pas Dieu que nous avons mis en premier. Alors, devant la splendeur du mystère de l'Eucharistie, on peut être tenté de se demander qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que, aujourd'hui, l'Église soit pleine, qu'il y ait davantage de baptisés qui ont envie de participer à la messe ce dimanche. Ce n'est pas une question inutile, parce qu'on peut toujours mieux accueillir les personnes. On peut toujours mettre davantage de beauté dans nos célébrations. On peut célébrer dans les lieux ou dans des horaires qui nous conviennent mieux. Mais en fin de compte, seul Dieu peut mettre en nous, faire grandir et nous faire ressentir la faim et la soif qui nous habitent, la faim et la soif de Dieu, de sa parole, de son corps et de son sang, et la soif de la communion fraternelle. Il y a quelques jours, une famille me partageait qu'elle était allée le dimanche de la Pentecôte dans une église de bord de mer en Normandie. Pour la fête, l'église était comble, alléluia. Les fidèles ont commencé par répéter les chants parce que le prêtre n'arrivait pas. Comme cela a duré et que ce prêtre n'était pas joignable, ils se sont demandé ce qu'ils allaient faire. Ils n'avaient pas envie de se séparer. Alors, une personne s'est levée et a décrit ce qu'elle avait vu faire ailleurs, une célébration de la parole et la communion à la réserve eucharistique. Alors, ils ont improvisé une célébration en essayant de respecter le plus possible le schéma de la messe, peut-être de manière un peu maladroite. Mais s'ils faisaient ça, c'est que l'Assemblée expérimentait non pas l'absence de prêtres, mais la fin de la messe dans toutes ses dimensions, d'écoute de la parole, de communion au corps et au sang du Christ, et de communion fraternelle. J'ai eu la chance de vivre en plusieurs pays d'Afrique, là où les prêtres, c'était en pleine brousse, là où les prêtres ne peuvent aller célébrer dans beaucoup de villages qu'une seule fois par an. Et j'ai été témoin de la ferveur de croyants qui, le plus souvent possible, faisait plusieurs heures de marche à pied pour venir participer à l'Eucharistie. Et étonnamment, beaucoup de ces fidèles ne pouvaient pas être baptisés à cause de leur situation matrimoniale. Mais ils avaient faim de participer à la messe. C'est l'œuvre de l'Esprit-Saint. Mais c'est plus facile pour des pauvres. Je reçois aussi parfois des confidences. Je pense à une confidence d'une personne qui m'a dit il n'y a pas longtemps, « Mon père, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais j'espère que je ne deviens pas fou. » Alors je lui dis « Pourquoi ?»« Ben, j'aurais envie de venir à la messe chaque jour. » C'est l'œuvre de l'Esprit-Saint. Récemment, le jour de Pentecôte, une jeune femme de notre paroisse est venue me voir parce qu'elle aussi désire être baptisée. Elle n'est bien sûr pas encore catéchumène. Alors on s'est rencontrés, je l'ai interrogée et je lui ai dit « Mais qu'est-ce qui t'est arrivé pour que tout à coup tu demandes le baptême ?» Elle m'a dit deux choses. « Je ne comprends pas, j'avais toutes mes pensées bien en ordre dans ma tête. Dieu n'existe pas, tout est prouvable scientifiquement. » Et voilà que je me suis mis à me poser des questions. J'étais plus aussi sûr que ça. Mais surtout, quelque chose m'est arrivé. J'ai eu envie de participer à la messe. Ça, ce désir de Dieu qui nous habite, quand il se réveille, quand nous l'entendons, c'est que l'Esprit-Saint est à l'œuvre dans notre cœur. Cette faim de Dieu qui habite en nous, c'est un cadeau merveilleux que le Seigneur nous fait. Mais vous savez, avec Dieu, Dieu, tout est donné, mais tout est à faire. Avec Dieu, tout est donné, tout est à faire. Il est dans notre responsabilité d'accueillir ce cadeau, de le faire grandir, de le laisser porter ses fruits. Je vous parlais tout à l'heure du frère Youn. Eh bien, une chose m'a étonné. Lui qui a vécu tellement de souffrances pour le Christ, alors qu'il était en prison depuis des années, et à cause du Christ, pour le témoignage du Christ, alors qu'il continuait à évangéliser, à faire connaître le Christ à beaucoup de membres de la prison, un jour, il a pris conscience que depuis un certain temps, il s'était laissé prendre par des pensées qui ne venaient pas de Dieu. Il s'est rendu compte qu'il avait cessé de prier. Oh, il récitait encore des prières, mais il n'avait plus de véritable intimité avec le Christ. Même s'il continuait à faire des choses pour Dieu, il n'avait plus ce contact avec Dieu. Il ne priait plus vraiment. C'est arrivé à Sainte Thérèse d'Avila, d'ailleurs, qui disait que ça avait été la plus grande tentation de sa vie. Ça rejoint le témoignage des saints qui nous disent que rien n'est jamais acquis. Que chaque jour il nous faut nous redéterminer pour le Christ et humblement recommencer à zéro, parce que si facilement la faim de Dieu est étouffée en nous par d'autres faims. Frère Youn s'est repenti dans sa prison et il a pris la décision de mettre cette intimité avec le Christ en priorité absolue sur tout, même sur son ministère d'évangélisation. Frères et sœurs, avec Dieu, on ne peut pas vivre de ses rentes. Ce n'est pas parce qu'on a été jeté en prison qu'on a souffert pour le Christ que désormais, on n'a plus besoin de le rechoisir et de se décider pour la prière. Alors, il y a deux choses qui nourrissent en nous la faim de Dieu, qui la font grandir. Il y a bien sûr la pratique de la charité, et c'est très très important. Mais aujourd'hui, c'est la fête de Dieu, la fête du Saint-Sacrement. Alors je vais plutôt parler de la deuxième chose qui fait grandir en nous la faim de Dieu, c'est l'adoration eucharistique. Pourquoi faut-il venir s'exposer au rayonnement de Jésus Eucharistie devant le tabernacle fermé ou devant le Saint-Sacrement exposé? Pourquoi? Pourquoi l'Église ne pourra, excusez-moi l'expression, redémarrer que si ensemble nous mettons en place l'adoration permanente de Jésus hostie? Pourquoi? Pourquoi est-ce indispensable? Parce que il y a en nous, comme il y avait dans les apôtres, des couches d'incrédulité. Ces couches d'incrédulité qui se sont accumulées les unes sur les autres dans notre cœur, à cause de déceptions, à cause de frustrations, de manque de confiance, peut-être parfois à cause de fausses spiritualités, de fausses doctrines, de fausses théologies. Toutes ces choses ont produit des couches d'incrédulité dans notre cœur qui font que notre cœur n'est plus un cœur d'enfant, livré à Dieu, abandonné à lui. Nous sommes alors prisonniers de raisonnements, parfois de liens que nous ne savons dénouer, d'émotions, de blessures qui s'infectent quand nous sommes pauvres devant le Saint-Sacrement, quand nous lui mendions simplement un peu de lumière, un peu de paix, de joie. Alors Dieu peut faire ce travail de dissoudre ces couches d'incrédulité. Peut-être que nous serons dans un état intérieur de pauvreté en nous disant « à quoi ça sert que je reste là ?» Eh bien, si nous persévérons, nous sentirons en nous, nous verrons que progressivement tombe cette incrédulité et que nous commençons à voir, à aimer et à espérer comme nous n'avons jamais cru, comme nous n'avons jamais espéré, comme nous n'avons jamais aimé. C'est l'année de la prière. Demandons à Dieu la grâce de l'adoration, le désir de prier, de connaître et d'aimer Dieu. Je rajoute en conclusion que ce qui est étonnant en ce qui concerne la prière, c'est que si on veut vraiment prier, il faut commencer par prier pour recevoir le don de la prière. Tant qu'on n'est pas pauvre devant Dieu, qu'on ne peut pas lui dire « Seigneur, apprends-moi à prier, donne-moi, fais-moi le don de la prière », alors on ne peut pas laisser grandir en nous cette grâce. Amen.